Or donc, Tuor et Volonwë s'apprêtèrent pour le départ. Tuor s'arma du petit arc et des flèches qu'il avait apportées en sus du harnois qu'il avait pris dans la salle du trône. Mais sa lance, sur laquelle était écrit son nom en runes des elfes du Nord, il la posa contre le mur pour marquer son passage. Volonwë n'avait pas d'armes, sauf une courte épée. Avant qu'il fît grand jour, ils quittèrent l'ancienne demeure de Turgon, et Volonwë conduisit Tuor par monts et par veaux, et ils contournèrent à l'ouest les pentes abruptes du Talas et traversèrent le grand promontoire. Là passait autrefois la route allant du Nevrast à Brithombar, qui lors n'était guère plus qu'une verte sente entre d'anciens talus gazonnés. Et c'est ainsi qu'ils atteignirent le Beleriand et les régions septentrionales du Falas. Et obliquant vers l'est, ils cherchèrent les sombres surplombs des Eredwethrin, et là, ils se dissimulèrent et prirent du repos jusqu'à la tombée du jour. Car bien que les antiques demeures des Falathrim, Brithombar et Eglarest fussent encore distantes, les orques vivaient à présent dans les parages, et tout le pays était infesté par les espions de Morgoth. Ils craignaient en effet les navires de Círdan, qui faisaient parfois des incursions sur les côtes et se joignaient aux expéditions envoyées de Nargothrond. Et tandis qu'ils étaient là, assis, emmitouflés dans leurs manteaux, tels des ombres à l'abri des collines, Tuor et Volonwë conversèrent longuement. Et Tuor questionna Volonwë au sujet de Turgon, mais Volonwë était peu loquace là-dessus, et parlait plus volontiers des demeures construites sur l'île de Balar et du Lisgard, le pays des roseaux aux bouches du Sirion.
En ces lieux, le nombre des Eldar va toujours croissant, dit-il, car toujours plus nombreux, ils s'y réfugient, gens de l'un ou de l'autre peuple, par peur de Morgoth et lassitude des combats. Mais je n'ai pas abandonné les miens de mon propre gré, car après la Bragolac et la levée du siège d'Angband, le doute pour la première fois s'insinua au cœur de Turgon et il se prit à craindre que Morgoth ne se révélât trop fort. Cette année-là, il en envoya certains, les premiers des gens de son peuple à sortir par ses portes, une poignée d'entre eux qui furent mandés en mission secrète. Ils descendirent le Sirion jusqu'aux environs des bouches, et là, ils construisirent des navires. Mais cela ne leur fut d'aucune utilité sinon pour gagner la grande île de Balar et y bâtir des habitations isolées hors d'atteinte de Morgoth. Car les Noldor n'ont pas l'art de construire des vaisseaux qui tiennent durablement contre les vagues de Beleaguer la Grande. Mais lorsque Turgon eut vent, par la suite, de la dévastation du Falas et du sac des anciens havres des charpentiers de Nef, dans les lointaines contrées face à nous, et quand se propagea la rumeur que Círdan avait sauvé une poignée de ses gens et navigué jusqu'au sud de la baie de Balar, de nouveau il envoya des messagers. Cela se passait il y a peu, et pourtant, à m'en souvenir, cela me paraît comme le plus long pan de mon existence. Car j'étais l'un de ceux qu'il dépêcha, étant encore tout jeune d'année, chez les Eldar. Je suis né ici, en terre du milieu, sur les terres du Nevrast. Ma mère appartenait aux elfes gris du Falas, et elle était apparentée à Círdan lui-même. Il y avait un grand brassage de population au Nevrast dans les premiers temps du règne de Turgon. Et j'ai le cœur marin de ceux de ma lignée maternelle. C'est pourquoi je fus parmi les élus, car nous avions mission de nous rendre auprès de Círdan, solliciter son aide dans nos constructions navales, afin que les messages et les prières, appelant à nous secourir, parviennent jusqu'au seigneur de l'Ouest, avant que tout fût perdu. Mais je me suis attardé en chemin, car je ne connaissais guère la terre du milieu, et nous arrivâmes à Nantathren, au printemps de l'année. Belle à ravir le cœur est cette contrée, Tuor, comme toi-même le découvriras, si jamais tes pas te mènent sur les routes du sud qui descendent le cours du Sirion. Là, guérit-on de tout languir de la mer, sinon pour ceux que la malédiction ne veut point lâcher. Là, Ulmo n'est plus que le serviteur de Yavanna, et la terre a doué de vie une profusion de choses merveilleuses, bien au-delà de ce que dans les rudes collines septentrionales, le cœur peut concevoir. En ce pays se rencontrent le Narog et le Sirion, et ils ne se hâtent plus, mais coulent larges et paisibles à travers de vivantes prairies, et tout alentour du fleuve Saint-Ian foisonnent les glaïeuls écarlates, telle une éclatante forêt, et l'herbe est semée de fleurs telles des joyaux, des clochettes, des flamèches de rouge et d'or, une lande d'étoiles multicolores dans un firmament d'émeraude. Mais plus beaux encore sont les saules de Nantathren, vert pâle ou argenté dans le vent, et la rumeur de leurs feuilles innombrables est une musique enchantée. Les jours et les nuits s'écoulaient sans que j'en tienne le compte, et je me tenais là, immobile, avec de l'herbe aux genoux, et j'écoutais. Là, je fus ensorcelé, et j'oubliai la mer en mon cœur. Là, j'errais nommant les fleurs nouvelles, et couché, je rêvais parmi le chant des oiseaux et le bourdonnement des abeilles et des mouches. Et là, je pourrais vivre encore avec félicité, abandonnant tous les miens, et aussi bien les vaisseaux des Teleri que les épées des Noldor. Mais mon destin en a décidé autrement. Ou peut-être le Seigneur des Eaux lui-même, car il régnait puissant sur cette terre. Ainsi, dans le fort de mon cœur, je conçus l'idée de faire un radeau avec des branches de saule et d'aller voguant sur le sein brillant du Sirion. Et c'est ce que je fis, et c'est ainsi que je fus pris. Car un jour où je me trouvais au milieu du fleuve, le vent se leva soudain, et se saisit de moi, et m'emporta au loin hors du pays des saules, jusqu'à la mer. Et des messagers, je fus ainsi le dernier à rejoindre Círdan. Et des 7 navires qu'il construisit, sur la demande de Turgon, tous hormis un seul, étaient déjà pleinement appareillés. Et l'un après l'autre, ils firent voile dans l'ouest, et aucun d'entre eux n'est jamais revenu, ni a-t-on jamais reçu d'eux la moindre nouvelle. Mais voilà que l'air salé du grand large attisa en mon cœur l'âme de ma lignée maternelle, et je pris plaisir aux vagues, apprenant tout le savoir marin, comme s'il était déjà engrangé en mon esprit. De sorte que lorsque le dernier navire et le plus considérable fut appareillé, j'avais hâte de partir, me disant à part moi, « Si les paroles des Noldor sont vraies, alors dans l'ouest se trouvent des prairies auprès desquelles le pays des saules est peu de choses. Et là-bas, il n'est rien qui se flétrisse et le printemps n'a point de fin. Et il se peut que moi-même, Voronwë, je puisse y parvenir. Et au pire, mieux vaut errer sur les eaux que de subir l'ombre du nord. Et je ne craignais rien, car nul flot ne peut couler bas les navires des Teleri. Mais terrible est la grande mer, Tuor, fils de Huor, et elle porte haine au Noldor, car elle accomplit la malédiction des Valar. Bien pire sort nous attend que de sombrer dans l'abîme et d'y périr. Le dégoût, la solitude et la démence. L'effroi du vent et le tumulte des vagues, et le silence et les ombres où tout espoir s'évanouit et toute forme vivante se dérobe. Et elle baigne bien des rives mauvaises et étrangères, et bien des îles de danger et de peur l'infestent. Je n'assombrirai pas ton cœur, fils de la terre du milieu, avec les récits de mes travaux 7 ans durant sur la grande mer, au nord et au sud, mais jamais à l'ouest, car l'ouest nous est fermé. Enfin, dans le morne désespoir, là du monde entier, nous virâmes de bord et tentâmes d'échapper au destin qui si longtemps nous avait ménagé seulement pour nous frapper plus cruellement. Car juste comme nous discernions à l'horizon une montagne et que je m'écriais « L'or, voici le Taras et le pays de ma naissance !» Le vent se leva, et de grands nuages chargés de tonnerre accoururent de l'ouest. Alors les vagues, telles des créatures vivantes douées de malignité, nous traquèrent, et la foudre nous frappa. Et lorsque nous nous trouvâmes rompus et réduits à une coque en détresse, les mers nous prirent d'assaut avec furie. Mais comme tu vois, je fus épargné. Car à ce qu'il me semble vint une vague plus puissante et cependant plus calme que toutes les autres. Et elle se saisit de moi et m'arracha au vaisseau et me hissa sur ses épaules, et déferlant sur la côte, elle me déposa sur l'herbe tendre, et puis elle s'écoula, se déversant par-dessus la falaise en une puissante cascade. Et il n'y avait guère qu'une heure que j'étais là, assis, lorsque tu apparus à mes yeux, et que tu me découvris tout étourdi par la mer. Et je ressens encore la peur qu'elle m'inspire, et l'amère perte de tous mes compagnons qui peinèrent avec moi si longtemps et si loin, hors de vue de toute terre mortelle. » Volanwë soupira et poursuivit à mi-voix, comme pour lui-même, « Mais si brillantes étaient les étoiles aux confins du monde, lorsque les nuées à l'ouest par instants se déchiraient. Pourtant là-bas, plus loin encore, était-ce bien des nuages que nous apercevions ou bien, comme l'affirmaient certains, les fugitifs contours des montagnes des Pelori qui dominent les rivages perdus de nos demeures d'antan, je l'ignore. Loin, très loin, elles se dressent, et à ce que je crois, nul venant de terre mortelle n'y retournera jamais. » Et Volanwë se tut, car la nuit était tombée, et les étoiles étincelaient, blanches et froides. Peu après, Tuor et Volanwë se levèrent et, tournant le dos à la mer, entreprirent leur long périple dans les ténèbres, dont il y a peu à dire car l'ombre d'Ulmo environnait Tuor et personne ne les vit passer par les bois et les rochers, par les champs et les marais, entre le coucher et le lever du soleil. Mais toujours aux aguets, ils cheminèrent, évitant les créatures de Morgoth qui chassaient de nuit et s'écartant des chemins battus par les elfes et les hommes. Volanwë choisissait leur route, et Tuor suivait. Il ne posa aucune vaine question, mais nota bien qu'ils allaient toujours vers l'est, sur le sillage de montagnes de plus en plus hautes, et que jamais ils n'obliquèrent vers le sud. Et il s'en étonna, car il croyait, comme le commun des elfes et des hommes, que Turgon habitait loin des champs de bataille du nord. Lente était leur progression au crépuscule et de nuit dans ces solitudes inexplorées, et un rude hiver s'abattit sur eux, venu du royaume de Morgoth. Malgré l'abri qu'offraient les collines, les vents étaient violents et glaciaux, et bientôt, une neige profonde recouvrit les hauteurs, et elle tourbillonnait dans les cols et tombait sur les bois de Nuath, point encore défeuillés. Ainsi, bien qu'ils se soient mis en route avant la mine Arkelié, Izimé vint accompagné d'un givre mordant, alors qu'ils approchaient seulement des sources du Narog. Et là, ils firent halte dans la grisaille de l'aube, au terme d'une nuit épuisante. Et regardant tout autour de lui, Volanwë fut atterré, et le chagrin et l'effroi s'emparèrent de lui, car là où autrefois miroitait la belle fontaine de Livrin, dans le grand bassin de pierre creusé par les eaux agitées au cœur d'un vallon tout couvert de bois sous les collines, il ne voyait plus qu'une terre souillée et désolée. Les arbres étaient brûlés ou déracinés, et les margelles de l'étang toutes brisées, de sorte que les eaux de Livrin s'épanchaient partout et formaient un grand marécage stérile parmi les ruines. Tout n'était plus qu'un chaos de boue glacée, et une puanteur fétide flottait au ras du sol comme un brouillard immonde. « Hélas, le mal est-il venu jusqu'ici ?» s'écria Volanwë. « Hors d'atteinte de la menace d'Angband fut ce lieu autrefois, mais les doigts de Morgoth s'avancent toujours plus loin. »
« Les choses sont bien telles que l'a dit Ulmo, » dit Tuor. « Les sources sont empoisonnées, et mon pouvoir se retire des eaux du pays. »
« Et pourtant, » dit Volanwë, « une malignité là s'est exercée plus puissante que celle des orques. La peur rôde en ce lieu. »
Et il fouilla les abords du bourbier et soudain s'immobilisa, s'écriant à nouveau
« Un mal, oui, un grand mal !»
Et il fit signe à Tuor, et Tuor s'approchant vit une rainure, se creusant elle un gigantesque sillon en direction du sud. Et des deux côtés, ici brouillée, là inscrite dure et nette par la gelée, les traces de larges pieds griffus.
« Regarde, » dit Volanwë, dont le visage avait pâli d'horreur et de dégoût. « Ici a passé tout récemment le grand ver d'Angband, la plus redoutable de toutes les créatures de l'ennemi. Nous avons déjà bien tardé dans notre mission auprès de Turgon. Il nous faut nous hâter. »